La commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse s'est amorcée hier du côté de Montréal. C'est la commission qui est présidée par Régine Laurent qui a été instituée suite au décès tragique de la jeune fille de Granby le printemps dernier. Et la première journée s'est amorcée hier avec les témoignages de plusieurs jeunes adultes qui sont passés par les services jeunesse. C'est le cas de notre prochaine invitée. Il s'agit d'Émilie Roy. Bonjour Madame Roy.
Bonjour monsieur.
Pourquoi était-ce important pour vous de raconter votre histoire hier?
En fait, ce qui est important pour moi de raconter mon histoire, c'est que au niveau de la DPJ, tout est clos. Tout est fermé, on ne peut jamais l'exprimer et tout ça. Les gens ne savent pas ce qui se passe à l'interne. Mm-hmm. C'est impossible, en fait, d'avoir des données et tout ça. Et depuis 4 ans, avec le comité des JEP, en fait, on réussit à faire une étude auprès des jeunes, 1000 jeunes dans la province de Québec, okay, pour justement évaluer les services de transition à la vie adulte. Donc, c'est la première fois, effectivement, qu'on peut, entrer à l'intérieur vraiment de la DPJ pour aller chercher des données pour améliorer le système. Mm-hmm. Et le fait de pouvoir partager notre histoire, parce que j'étais pas la seule, bien sûr, qui était présente, oui, c'est un grand soulagement, enfin, de pouvoir exprimer publiquement ce qu'on a vécu. Autant qu'il y avait des histoires d'horreur, autant qu'il y avait des victoires aussi, mmh, à ne pas oublier, effectivement. Pour moi, personnellement, en fait, c'est parce que c'est un combat que je mène depuis très longtemps. Je souhaite changer les choses, je souhaite paver le chemin pour les jeunes qui s'en viennent afin qu'ils n'aient pas à vivre ce que j'ai vécu.
Dans votre cas, Mme Roy, vous avez fait plusieurs séjours en centre jeunesse alors que vous étiez adolescente. Qu'est-ce qui vous a mené là?
En fait, j'avais des problèmes d'automutilation, surtout. Ils ont, en fait, je faisais des automutilations et des crises d'agressivité. Okay. Donc, je suis allée en centre jeunesse en premier lieu pour ce qu'ils appelaient un mois d'évaluation. On signe un mois d'évaluation volontaire. Par la suite, on m'a diagnostiqué un trouble de personnalité limite sévère déjà à 14 ans, malgré que c'est recommandé selon le DSM de diagnostiquer seulement à partir de l'âge de 18 ans à cause justement de la puberté, mm-hmm, qui peut amener des comportements similaires. Donc, à partir de ce diagnostic-là et des crises que je faisais, ils ont demandé un placement là, d'un an. Ça a duré en fait là, 4 ans, où j'ai fait souvent le ping-pong entre chez mes parents et chez moi. Donc, okay, dès que ça se calmait légèrement les crises, ils me renvoyaient à la maison. Les crises revenaient et on me retournait au centre jeunesse. Mais c'était surtout dû aux médicaments qu'on me donnait. Parce qu'en fait, on est certains aujourd'hui que ce n'était pas un trouble de personnalité limite sévère que j'avais, mais bien que j'ai un Asperger féminin. Donc, c'est pas la même manière d'interagir, c'est pas la même pratique. Mm-hmm. Donc, je considérais que mes comportements étaient de la recherche d'attention et tout, de l'impulsivité. En fait, c'était simplement que j'avais des émotions que je ne pouvais pas identifier, que je ne pouvais pas, mm-hmm, exprimer, qui s'accumulaient, qui déclenchaient des crises. Et les médicaments de plus qu'on m'a donné, aujourd'hui, après des études, a été démontré qu'ils déclenchaient eux-mêmes des, okay, crises, en fait.
Donc, c'était une prise contre vous plutôt qu'être une forme d'aide. Lorsque vous étiez placé en centre jeunesse, de quel genre d'encadrement est-ce que vous pouviez bénéficier?
En fait, c'était surtout un encadrement très directif, dans le sens où le lever à telle heure, c'était toute la journée est calculée à l'heure et à l'heure après. Toutes les semaines, c'est la même chose. Ça, c'est vraiment comme je dirais pour le rythme de vie. Au niveau de l'encadrement psychologique, souvent, j'ai pu voir quelquefois le psychologue là, de l'établissement à peu près une fois par mois quand ça allait bien. J'avais un psychiatre que je voyais à l'extérieur, mais à peu près une dizaine de minutes. Et souvent, c'était le rapport de l'intervenant en fait qui était écrit, qui était donné au transporteur qui m'amenait chez le psychiatre, mm-hmm, et qui lisait en fait plus que de m'écouter moi. Donc, je ressortais avec des médicaments. Donc, c'est surtout les médicaments qui ont essayé pour me contrôler. Et malheureusement, beaucoup d'utilisation au niveau des isolements. Lorsque je faisais une crise, là, ils me mettaient là, en isolement. Ça faisait même, à partir d'un certain moment, partie d'un plan d'intervention. Donc, aussitôt qu'il y avait une crise, ils me mettaient 48 heures à l'isolement.
2 jours seul dans une pièce, avec vous-même, avec vos crises.
Oui, donc c'est pour vous visualiser, ça environ une pièce de 6 pieds par 6 pieds, capitonnée. Il y a une porte qui, en fait, aucune poignée de mon côté, poignée de l'autre côté barrée, simplement une petite fenêtre qui, en fait, le 3/4 du temps avait un petit rideau pour éviter que je puisse voir à l'extérieur de la salle. Donc oui, c'est la plupart du temps ce que j'ai dû vivre.
Ça, c'était régulier?
Oui, très régulier, parce que justement, je faisais beaucoup de crises de manière régulière, autant automutilatoires que simplement des crises, je veux dire, d'expression au niveau des émotions que j'étais pas capable de gérer, vu mon état. Donc, c'était très régulier.
C'est complètement inhumain. Moi, j'ai déjà vécu l'expérience d'être enfermé à quelque part sans savoir il est quelle heure, sans savoir s'il fait clair dehors ou s'il fait noir, mais pendant moins de 24 heures, pendant à peu près, je dirais, une quinzaine d'heures. Puis j'ai trouvé ça éprouvant. Ce que vous dites, c'est qu'à plusieurs reprises, sur une base régulière, on vous enfermait comme ça pour des durées de, donc, même plus proche de 48 heures.
Oui, puis ça, c'était pour ce qui était de l'isolement, vraiment ce que eux considèrent comme étant un isolement. Par la suite, lorsque je revenais à l'unité de vie, je devais passer mes repas et mes journées dans un ce que nous, à Los Angeles au Québec, ils appelaient le 3R, repos, réflexion et, mon Dieu, excusez-moi, je me souviens plus du dernier, mais c'était une chambre, en fait, avec aucun matelas. Il y a une chaise de plastique, une petite table, et tu fais des protocoles. Donc, tu remplis à des questions. Tu sais, pourquoi tu as eu tel comportement? Okay. Quels seraient les moyens? Tout ça. Alors, je devais passer un autre 24 heures là et j'avais pas le droit d'être dans ma chambre. J'étais dans ce qu'on appelait une chambre neutre. Donc, le matelas est par terre. Il y a rien dans la chambre. J'ai le droit à rien dans la chambre à part des draps pour dormir. C'est assez intense. Donc, ça, c'était le protocole de retour à l'unité. Le 3 heures durait environ 24 heures. La chambre neutre pouvait aller de 2 à 3 jours, dépendamment du comportement. Mais malheureusement, à cause que justement, j'étais renfermée avec moi-même, mon esprit et mes émotions que je ne pouvais pas vivre, souvent, il arrivait une autre crise qui faisait redémarrer le protocole.
Quelles conséquences vous jugez que ça a eu sur vous aujourd'hui, ça, c'est le fait d'être enfermé comme ça?
Ben, en fait, la plus grosse conséquence que j'ai encore à vivre aujourd'hui, c'est un choc émotionnel intense qui a déclenché chez moi une fibromyalgie. Donc, de la tête aux orteils, je souffre de douleurs 24 heures sur 24. Wow. J'ai la difficulté à me déplacer. Je peux pas trouver de travail. J'ai essayé plusieurs fois, mais au bout d'environ 2-3 mois, mon état décline. Donc, c'est impossible pour moi de continuer. Je dois quitter et reprendre soin de ma santé et tout. J'ai déjà eu même un traitement de 3 ans sur la morphine longue durée, qui en fait a été quand même un soulagement pendant un certain temps. Et un autre traumatisme, en fait, qui peut paraître invisible, mais qui pour moi est extrême dans un sens, c'est mes clics. Alors, on a entendu parler beaucoup, oui, dans les médias, on a entendu parler beaucoup parce que ça l'a fait mais ça l'a marqué les gens. Dans un isolement, tout ce que tu entends, c'est les clés des agents. Donc, le bruit des clés qui passent à côté de la porte. L'agent, quand il vient soulever le rideau pour voir, ben, c'est les clés que tu entends. Alors, aujourd'hui, j'ai un porte-clés qui teinte. Alors, j'ai besoin, pour me rassurer, pour avoir le contrôle, pour me dire, c'est moi qui rouvre les portes, d'avoir ces clés-là sur moi.
Ah ouais, donc, c'est vraiment traumatisme. Donc, en tout temps, vous traînez un porte-clés avec vous, simplement pour avoir le bruit des clés, parce que c'est comme si ça vous confortait?
Oui, ça m'a pris quand même un certain temps de comprendre que c'était ça, parce qu'un traumatisme n'est pas nécessairement évident. Et les gens me disaient tout le temps, ben voyons, enlève ça, ça fait du bruit. Puis j'étais comme, non, ça, je le garde. Puis aujourd'hui, maintenant, je comprends la signification vraiment de ça, à force vraiment de raconter, d'analyser mon histoire.
Avec le recul, pourquoi croyez-vous qu'on agissait comme vous, comme ça, à votre égard? Est-ce que c'était un manque de connaissances ou un manque d'effectifs, plus particulièrement?
En fait, dans mon cas, à moi, je dirais que c'était surtout un manque de connaissances et de formation, mais également aussi l'interprétation. Donc, le fait qu'on ait un mauvais diagnostic, amenait une interprétation de la situation différente de la réalité. Donc, on n'amenait pas un soin psychiatrique, mais on amenait un soin comportemental.
Ouais.
C'est sûr qu'au niveau de la santé mentale, les centres jeunesse et les hôpitaux psychiatriques en pédopsychiatrie, il y a vraiment une scission entre les deux. Donc, dès que tu as un trouble comportemental et qu'il n'y a pas un hôpital psy, tu envoies un centre jeunesse, mais les centres jeunesse ne sont pas équipés pour faire face, malheureusement, à cette situation-là. Donc, c'est pas un manque de volonté, vraiment. Les intervenants font leur possible. En fait, même aujourd'hui, je me souviens encore d'un intervenant qui, lui, a eu, je dirais pas le mot pitié, mais qui a compris qui j'étais et qui était capable de m'offrir quand même des opportunités. Grâce à lui, même à un moment donné, lorsque je revenais à l'unité, même si j'étais à l'isolement de l'unité, j'avais le droit à un jeu d'échecs. Lui avait compris, dans l'isolement, en fait, il avait compris que si j'utilisais mon cerveau, j'allais pas faire de crise.
Oui, OK.
Donc, il y a des intervenants qui vont avoir fait, comment je pourrais dire, du positif malgré le tout. Parce qu'il n'y a pas simplement du négatif non plus.
Madame Roy, hier, vous avez raconté votre histoire devant Madame Laurent, devant 4 députés, devant des experts et devant des journalistes qui ont relayé votre histoire dans les médias. Quelles actions, selon vous, de ces gens-là devraient privilégier pour améliorer le système, à votre avis?
En fait, pardonnez-moi, en fait, c'est qu'on avait plusieurs recommandations, mais en fait, pour vous citer, je dirais, dans les plus évidentes, oui. C'est la création d'un office des jeunes suivi par la DPJ ou d'un comité adviseur de jeunes au niveau des suivis par la DPJ, extérieur justement à la direction de la DPJ. Okay. Donc, un regard extérieur, un peu comme l'Office des personnes handicapées, qui permet l'analyse des droits. Donc, cet office-là, des jeunes suivis par la DPJ, ferait des travaux d'évaluation et de recherche sur la participation sociale des jeunes, conseiller le gouvernement et les ministères par rapport aux impacts, concerter les partenaires, collaborer avec des organismes communautaires. Donc, ça créerait un réseau, ça éliminerait le principe de silo au niveau de la DPJ. C'est sûr qu'il y aurait également diversifié et individualisé les interventions et les plans d'action. Donc, souvent, on revient aux mêmes pratiques dans plusieurs plans d'intervention. Donc, c'est vraiment de voir, d'individualiser avec le jeune, de vraiment voir, toi, qu'est-ce que tu souhaites faire, comment tu voudrais le faire, parce que le jeune a une grande part à prendre là-dedans et souvent, il est absent lors des pratiques, justement, de ces protocoles-là. Mm-hmm. Il y a aussi ce qu'on nous on demande parce que je veux dire c'est sûr qu'à 18 ans c'est un grand choc. Je veux dire quand on sort de 18 ans que ce soit en santé mentale en itinérance.
On sort du système.
Oui, donc je veux dire au niveau de la santé, on n'a plus un pédopsychiatre, on n'a plus le médecin des centres de jeunesse ou de la DPJ, donc faut que tu trouves un médecin de famille, faut que tu trouves un psychiatre. Alors la plupart, il faut que tu trouves un logement, la plupart vont se retrouver en itinérance avec aucun traitement. Parce que et selon des études, en fait, les jeunes d'aujourd'hui ne partent pas avant souvent 25 ans de la maison familiale et ils ont vécu dans un environnement quand même d'harmonie et de sociabilité. Là, on dit aux jeunes à 17 ans, 364 jours, t'as besoin de nous autres, on a besoin de t'aider, il faut qu'on t'explique, tatata. Mais le lendemain, t'es libre, puis c'est comme, ben ok, on t'a tout dit, t'es beau, t'es correct.
Laisse à toi-même ou presque, là.
C'est ça. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une prolongation. Certains programmes existent, mais l'accès est très restrictif. Mais il pourrait y avoir, à la demande du jeune, un suivi jusqu'à 25 ans. Donc, pour lui permettre la transition, dans le fond, des accompagnements, que ce soit pour trouver un logement, faire un budget, même faire la cuisine. Dans les centres jeunesse, c'est un plateau qui arrive et on n'apprend même pas à cuisiner un œuf.
En terminant, Madame Roy, donc vous avez plusieurs idées de solutions, plusieurs demandes constructives, mais avez-vous confiance que la commission Laurent va être efficace et utile?
Ça, c'est la. Je vous dirais que c'est la grande question. Moi, mon mot pour vivre, c'est l'espoir. Alors, j'ai espoir que la commission d'enquête fonctionne. C'est sûr qu'il y a des applications, des processus qui vont prendre du temps, mais également, il y a des applications, des processus qui peuvent être à court terme et appliqués. Alors, je crois que faut pas perdre d'espoir en la commission, faut pas perdre d'espoir non plus en la DPJ, parce que c'est un système qui est nécessaire, mais qui a une application archaïque. Donc, je crois que oui, on peut avoir confiance, mais ça va être vraiment au fur et à mesure qu'on va pouvoir juger de l'importance là, que les processus vont être mis en place.
Félicitations pour votre implication. Merci beaucoup pour votre témoignage, Mme Roy.
C'est plaisir. Merci à vous.
Au revoir. Émilie Roy a témoigné hier devant la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse. Elle a séjourné dans des centres jeunesse de l'âge de 14 à 17 ans. Cette commission-là se poursuit jusqu'au mois de décembre aux quatre coins de la province.